coincé.
Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars.
Bienvenue à la complainte du travail.
De c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, sois tombé si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Alors aujourd'hui, une autre émission de La Complainte du Travail, une émission d'Illusion Emploi. Manon Morissette au micro avec Sandy Tremblay.
Bonjour.
Aujourd'hui, bonjour Sandy. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite scène mettant en vedette un personnage qui vit une situation d'épuisement professionnel au travail. Alors, en tant que travailleur, travailleuse, vous allez probablement vous reconnaître dans certaines situations ou en tant qu'ex-travailleur. Après cette scène-là, bon, on va faire une pause musicale, bien sûr. On va vous donner des pistes pour éviter l'épuisement professionnel. Puis bien sûr, on va s'inspirer un peu de ce scénario-là. Sandy va personnifier le personnage de Mary, là, qui vit l'épuisement professionnel en question. Puis moi, je vais faire la personne qui écoute, qui fait comme un counseling en tant que travailleuse en ressources humaines. Je l'ai été. Je tiens à spécifier que je ne ferai pas de counseling en ressources humaines parce que je ne suis pas membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. J'ai des cours, tout ça, mais je n'ai pas terminé ma formation encore. Je tiens à remercier aussi M. Denis Chenevert qui a écrit le chapitre « Assurer l'intégrité physique et psychologique des employés » dans le livre « À vos marques pré-gérées » des éditions du Renouveau pédagogique, qui m'a aidé vraiment à écrire ce scénario-là, puis aussi à vous donner les pistes pour éviter l'épuisement professionnel. Alors, on va commencer la petite scène.
Prête à la mise en scène. Alors, je vais sortir tout mon talent de comédienne. Vous allez être très content d'être à la radio et non pas à la télévision. Alors, voici. Bonjour Manon. J'aimerais vraiment ça trouver un moyen de tenir le coup jusqu'à mes vacances au boulot. Là.
Je t'écoute. Je vais tenter de comprendre la situation que tu vis. Quel poste que tu occupes au sein de ton organisation?
Je suis secrétaire de direction.
Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu ressens de la fatigue au travail, Marie?
Écoutez, j'ai eu un choc quand on a aboli le poste de ma collègue qui était ma secrétaire adjointe, mais après, ben, je sais pas quoi dire. Là. Écoute, j'ai fonctionné sur le pilote automatique. Là.
Ah oui, puis lorsqu'on a supprimé le poste de ta collègue, qui était ta secrétaire adjointe, est-ce que toutes ces tâches sont revenues à toi?
Oui. Depuis qu'on a supprimé ce poste, je parviens pas à accomplir tout le travail demandé ou par le secrétariat. Je n'ai plus le temps de bavarder avec mes collègues. Je mange souvent tout seul à mon bureau le midi. Puis écoute, c'est pas possible. Là. Je m'accorde quasiment plus de pause café.
Plus de pause café, ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un peu d'anxiété, voire de la dépression, puis ce qu'on appelle de la fatigue émotionnelle?
Écoute, je me lève souvent en ressentant une grande fatigue. Là. Ça prend tout mon courage pour quitter mon lit puis me préparer pour aller travailler. Là. D'autant plus que pour tenter de tout faire, ben j'arrive tôt le matin puis je pars tard le soir pour bénéficier de ces périodes de calme dans mon bureau. Là.
Pourquoi ces périodes de calme? Est-ce que c'est difficile d'accomplir tes tâches durant ton horaire de travail?
Durant toute la journée, le téléphone n'arrête pas de dérougir. Là. Puis les conseillers entrent constamment dans mon bureau puis ils me demandent de l'information ou ils me confient d'autres tâches. Ils sont toujours urgentes, ça a l'air. Je me sens de plus en plus fatiguée. Là. Je suis nerveuse, je suis irritable. Là. Puis je dois travailler rapidement et sans prendre le temps de revoir ce que je fais.
Ouais, mais Marie, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. Puis est-ce que ça t'est... Tu m'as jamais parlé de ça avant. Il t'est arrivé un événement particulier là, récemment pour que tu me parles de tout ça, parce que ça fait quand même un an là, que les deux postes sont combinés. Puis c'est très important tout ce que tu me racontes. Là.
Écoute, en effet, là, vendredi dernier, là, j'ai été anéantie. Là. Quand je suis arrivée au bureau, j'ai consulté mes courriels. Puis comme d'habitude, ben, j'étais submergée par une grande quantité de messages de toute provenance. Là. dont un qui venait du directeur, puis qui me demandait de déposer sur son bureau le rapport sur les dépenses de la réunion de service qui avait lieu ce matin-là, là. Je me suis donc empressée d'ouvrir mon fichier, puis je me suis mis au travail en faisant le plus vite possible, là, parce que la réunion avait lieu dans une heure.
On dirait que tu sembles toujours travailler de façon empressée quand je t'écoute.
J'avais presque terminé quand mon ordinateur a buggé. J'ai tout perdu le travail effectué depuis la matinée, là. J'étais au bord des larmes, là. Je craignais tellement la réaction de mon directeur, là.
Ça a été quoi, sa réaction?
Il est arrivé, puis il n'a jamais remarqué dans quel état j'étais, là. Il m'a demandé si le rapport était prêt. Fait que je lui ai raconté ma mésaventure, puis j'ai affirmé que j'allais m'y remettre avant la réunion, tu sais. Celui-ci, bon, il était un peu déçu, là. Il remettait en cause, un, ma capacité à organiser mon travail, puis deux, à gérer efficacement mon temps. Il m'a aussi dit que certains conseillers s'étaient plaints de mon attitude et de la qualité de mon travail depuis quelques mois. Moi, j'étais un peu surprise, là. J'ai répondu que personne ne m'avait mentionné de problème, là. Alors, puis il y avait personne au bureau qui semble reconnaître les efforts que je déploie afin d'arriver à faire tout ce qu'on exige de moi, là. Il n'y a personne.
Ouais, OK. C'est... Ouais. Est-ce que ton directeur ou une autre personne, par exemple, planifiait tes tâches au secrétariat avec toi lorsqu'on abolit le poste de secrétaire adjointe?
Non, on a jumelé mon poste avec celui de la secrétaire adjointe, là, sans même qu'on refasse une nouvelle description de tâches, là. Alors, la planification de mes tâches, là, on repassera, là.
OK. Puis quand tu as déclaré que tes conseillers, quand tu as dit là, que tu étais débordé, tout ça, qu'est-ce que ton patron a dit?
Écoute, il n'a absolument rien dit, il n'a absolument rien fait, là. Il a même déclaré que ses conseillers ont autre chose à faire que de passer leur journée à me féliciter pour un travail qui, de toute façon, ne semble pas être à la hauteur de leurs attentes. À ce moment-là, Manon, je te le dis, là, je me suis sentie, là, j'étais complètement abattue puis complètement démoralisée, là. Fait que je reviens donc à ma première question, là, comment je fais pour tenir le coup jusqu'à mes vacances, là?
Sur ça, notre petite scène est terminée.
On va y revenir tout à l'heure.
On va y revenir tout à l'heure, puis nous allons passer.
Si je pouvais, je mettais des applaudissements à Cannes, là, pour... spécifier qu'on a été très doués, là, quand même. Je sais que ça brûle les lèvres de tous les auditeurs et auditrices. Hein?
On entend les applaudissements d'ici.
Alors, c'était une petite mise en scène pour expliquer comment une personne peut vivre de l'épuisement professionnel dans son milieu. Puis c'est un des exemples, hein, parce que j'imagine qu'il pourrait y avoir un paquet de facteurs qui font vivre de l'épuisement professionnel, là.
Ah oui, ça, c'est juste une scène qu'on a mis... En valeur, mais il y a tellement d'éléments qui font vivre l'épuisement professionnel. Ça peut être aussi les lieux physiques d'un endroit, hein? C'est que les gens qui travaillent, supposons, dans une usine qui n'a pas de lumière, qui n'a pas de fenêtre, de nuit, ça peut être une raison aussi. Tantôt, on va voir les différents facteurs. Alors, ça, c'est juste il y a plusieurs éléments là-dedans, on va le voir tantôt, mais l'épuisement professionnel, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner ça.
En fait, ce que je suggérais, c'est qu'on passe à une petite pause musicale de 4 minutes, puis après, on pourrait voir les facteurs qui ont mené Marie, comme dans notre exemple, à une phase d'épuisement professionnel, puis on pourrait regarder l'évolution des symptômes de l'épuisement et des mesures qu'on pourrait prendre en tant que travailleur, puisqu'on s'entend que nous, notre émission aujourd'hui, elle vise à vous outiller pour ne pas en arriver à une situation irréversible puis épouvantable. Ça te convient-tu, Manon, comme plan de match?
Bien, exactement. C'est le but de l'émission.
Bon, bien, on se laisse en musique. On revient dans 4 minutes.
C'est la joulon. N'arrive par la bande, c'est l'âge où l'on met l'enfance à l'amende, c'est l'âge où l'on. L'âge où l'on gravit les échelons, c'est l'âge où l'on se déplace en bande. C'est l'âge où l'on façonne les légendes, c'est l'âge où l'on l'âge où le temps n'est pas bien long. Le temps que bourgeonne la vie et que s'éclate la folie. Dans un crucifiant corps à corps, entre l'amour, la guerre et puis la mort, la jeunesse s'affaire et puis s'endort, entre l'air que l'on bouffe et dans lequel on mord, ce cri qui nous étouffe et ce vide qui nous. Il y a ce vent qui nous dévore. Entre l'âge de pierre et l'âge d'or. C'est l'âge où l'on se détache de la bande. C'est l'âge où l'on délaisse la sarabande, c'est l'âge où l'on l'âge où l'on danse à reculons, c'est l'âge où l'on joue dans les plates-bandes, c'est l'âge où l'on fait de la contrebande, c'est l'âge où l'on et guélon long, l'âge où l'on zappe sur nos talons, au bout de l'âge, c'est l'âge où l'on. Le temps que bourgeonne la vie et que s'éclate la folie. Voici qu'il est déjà.
Alors, re-bienvenue à l'émission La Complainte du Travail. On vous rappelle que notre émission vous est présentée un mardi sur deux, de 9h à 10h. Si vous venez de vous joindre à nous puis vous avez raté la première partie, on vous rappelle qu'aujourd'hui, l'émission porte sur l'épuisement professionnel et on a pris la première partie, le premier segment de l'émission pour vous faire une mise en scène de ce à quoi peut ressembler l'épuisement professionnel. Dans la mise en scène qu'on vous a jouée, avec brio évidemment, on voyait une personne qui était surchargée par une mauvaise organisation du travail, on pourrait y revenir tout à l'heure, et cette surcharge de travail-là faisait en sorte qu'elle était vraiment épuisée. Sûrement que c'est des choses qui nous suivent en dehors du travail, mais on voit que l'épuisement venait vraiment toucher cette femme-là. Alors, avec Manon Morissette, bonjour Manon.
Rebonjour Sandy.
Alors, même si on a vu que dans la scène qu'on a fait, il y avait plusieurs facteurs de stress qui pouvaient être dégagés, écoute, j'aimerais que tu nous en fasses l'analyse.
Oh, OK. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qui... les gens, souvent, quand ils vivent des symptômes comme Mary, ils vont avoir le réflexe de demander des vacances. Mais il faut aller voir souvent une racine plus profonde que ça. Justement, tu nommais, Sandy, qu'il y avait des problèmes liés à l'organisation, puis c'est très juste, parce que c'est sûr qu'on va se fier juste à ce scénario-là, puis bon, on va se faire... prendre pour acquis certaines choses.
Mm-hmm.
Alors, on va se dire, à partir de ce scénario-là, que les tâches ne sont pas planifiées. Hein? On va prendre pour acquis qu'il n'y a pas de planification du superviseur immédiat de la direction et puis que les tâches ne semblent pas être réparties. Parce que on voit que Marie dit que les conseillers rentrent, lui donnent du travail un peu n'importe quand. Et puis, ça peut emmener justement aussi une mauvaise évaluation pour Marie de son travail parce que le patron, il n'est même pas au courant de ce qu'elle fait. Puis aussi, elle ne semble pas avoir de latitude dans son travail de... Elle ne peut pas prendre de prise de décision, dire, supposons au conseiller, dire, pouvez-vous me donner, me le dire à l'avance quand vous avez un travail pour moi ou non, je n'ai pas le temps. Et ça, c'est prouvé que quand quelqu'un fait un travail qui est très stressant, qui demande beaucoup de tâches puis qu'il n'y a pas de latitude dans son travail, c'est des conditions assez gagnantes pour s'épuiser.
Et ça, j'imagine que dans le secteur tertiaire, on s'entend là, que quand on parle d'un secteur tertiaire, on parle de tout ce qui est service. Ça doit être plus fréquent que dans d'autres secteurs. Parce que j'imagine, tu travailles dans une mine, tu es en train d'extraire le bois, il y a une séquence, tout le monde a sa tâche, on fait notre job. Tu travailles dans le secteur secondaire, la transformation, tu es dans la shop, tu as ta tâche, quand c'est fini, tu transfères ça à l'autre, puis chacun est... en silo, puis ça fonctionne bien comme ça. Mais dans le secteur tertiaire, effectivement, c'est plus malléable, hein, puis c'est facile. Et tu sais, je t'écoutais, là, puis je me dis, même nous, dans notre travail à Illusion Emploi, c'est comme ça souvent. Oui, on a une certaine description de tâche, mais c'est vraiment pas rare que, pouf, tout à coup, on a discuté de quelque chose, il y a une autre affaire qui vient de se décider, bien, toi, as-tu le temps de le faire? OK, oui, fais-le, mais des fois, ça va retomber sur le bureau. OK, t'as ça à faire rapidement, on tasse le reste. Puis... Fait que j'imagine que, oui, premièrement, ça rajoute un stress pour les employés. Et comme tu disais, bien, quand on fait ça plutôt que d'autres choses, bien, des fois, quand on vient pour se faire évaluer, bien, on peut se faire dire, bien, écoute, t'as soit pas eu le temps d'accomplir les autres tâches qu'il fallait que tu fasses. Et... Puis là, ça peut nous retomber dessus. Fait qu'effectivement, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est l'importance de clarifier.
Oui.
Qui fait quoi? Comment ça se passe? Qui donne des ordres à qui? Dans le meilleur des mondes, quand c'est possible, ça devrait se faire par étapes.
Puis nous-mêmes, on peut accepter des tâches, justement, puis ne pas évaluer le temps que ça va prendre et puis négliger de dire à notre supérieur immédiat, bien, j'ai fait ça, ça, ça. Puis supérieur immédiat, il ne peut pas le deviner.
Mm-hmm.
Alors, c'est des choses à ne pas négliger. Puis peut-être que dans le secteur tertiaire, justement, c'est moins analysé, justement, le temps que ça peut prendre une tâche. Puis c'est peut-être un peu plus difficile à évaluer aussi, mais il ne faut pas le négliger.
OK.
Et puis, il y a les facteurs aussi. Bon, les facteurs liés à l'organisation, quand ce n'est pas bien planifié, comme on a dit, et organisé, c'est des causes de stress.
Mm-hmm.
Et les facteurs liés à la tâche, quand ils ne sont pas bien organisés aussi, peuvent mener à une intensification du travail, comme on voit dans la scène. Comme on voit Mary, on voit qu'elle a une quantité de tâches assez énorme depuis que les deux postes ont été jumelés. Elle est constamment pressée. Elle dit à un moment donné, j'essaie de travailler le plus vite possible. Elle est continuellement interrompue. Ça, c'est un autre facteur de stress.
Mm-hmm.
Quand tu es tout le temps interrompue dans ton travail, là, c'est très difficile aussi de se concentrer quand tu as des tâches qui demandent la minutie, entre autres, tout ça.
D'ailleurs, Manon, je reste un petit peu dans le sujet, mais je bifurque un peu. On vous a déjà parlé à l'émission de tout le processus d'équité salariale, hein, où on devait analyser des postes principalement occupés par des hommes versus des postes principalement occupés par des femmes. Et cet aspect-là de « est-ce que la personne est dérangée dans son travail » était calculé parce que c'est vraiment une source de stress importante, une responsabilité aussi qui est importante. Quand tu as plusieurs choses à faire en même temps, bien, veux pas ta concentration, tu arrives chez vous, tu es fatigué aussi, là.
C'est pas n'importe qui peut être multitâche non plus, là.
C'est exactement. Puis là, il faisait la comparaison. Tu sais, t'as un gars qui, oui, va travailler super fort sur une machine, mais il a peut-être juste à peser. Tu sais, le gars qui cire un plancher, il pèse sur le piton on de la machine, puis il vibre avec pendant que le plancher se lève, puis ça se fait tout seul. La personne qui est secrétaire est assise. Oui, OK, peut-être que c'est moins physique, son travail, mais elle a 4-5 affaires à faire en même temps. Il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle réponde au téléphone, elle se fait déranger par tout le monde. Puis, parce que quand tu racontais ça, je me disais, Ah ah! Il y a beaucoup de monde. Oui, au niveau de l'épuisement, mais au niveau aussi de la reconnaissance de l'importance du travail que la personne effectue.
Oui, ouais, c'est une aptitude qui n'est pas encore reconnue dans notre société d'être multitâche. Mm-hmm. Je n'ai peut-être pas le bon terme, mais c'est un très bon point que tu amènes, effectivement. Alors, mais elle, c'est vraiment du multitâche d'une façon très, très intensive. Donc, elle est tout le temps en surcharge de travail. Alors, donc, ces facteurs reliés à la tâche ne sont pas pris en compte. Aussi, dans chaque milieu de travail, on peut avoir, elle peut avoir une panne informatique. Puis là, le directeur sans pas en tenir compte de ça. Dans un autre milieu, ça peut être, je sais pas moi, le mécanicien, il y a une machine essentielle pour réparer une auto, et puis là, elle ne fonctionne plus, puis là, son boss l'engueule. Ben, il faut que chaque patron tienne compte à un moment donné des limites de la technologie qui peut faillir. Alors, c'est ça. Puis dans les tâches aussi, je reviens à ça, j'en ai parlé tantôt, le degré d'autonomie qu'elle n'a pas. Et les facteurs psychosociaux. Alors, on voit dans la scène, si on se fie juste à la
Manon,
scène...
Manon, on va y revenir tout à l'heure aux facteurs psychosociaux.
Oui.
Avant ça, j'aimerais, en restant un petit peu dans la même veine, tout à l'heure, tu disais le multitâche, ça travaille toujours empressé. Moi, j'appelle ça le sentiment d'urgence. Tu sais, quelqu'un qui est toujours là, puis dans des milieux de travail, là, dans certains milieux de travail, c'est le milieu qui le demande. OK? Tu es urgentologue, tu vas être sur le piton urgence toute la journée, c'est ça ta job, puis ça va de soi, puis tu devrais être rémunéré, puis avoir les conditions de travail en fonction de ça.
Tout à fait.
Puis dans d'autres secteurs, c'est soit une désorganisation du travail qui va amener à ce qu'on est toujours sur le piton urgence, ou. Parce que les employés, vous savez, en tant qu'employé, souvent, on prend très à cœur notre travail, puis c'est très bon, là, je veux dire, c'est un point positif pour les gens.
Oui.
Mais des fois, ça fait en sorte qu'on s'en demande énormément aussi, peut-être plus que ce que le travail ou que ce que l'employeur en exige. T'sais. Alors, il y a des gens aussi qui, puis je l'ai vu aussi dans la pratique, là, qui s'alimentent de cette urgence-là. Mais ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est les impacts négatifs. D'être toujours sur un mode urgence, bien, ça fait en sorte qu'on peut être plus fatigué. On est plus à risque d'avoir un épuisement professionnel dans notre milieu de travail. Fait que ça, faire attention à ça, évidemment.
Puis tu me rappelles aussi, pour faire un lien dans le fameux livre « À vos marques pré-gérées », il disait qu'un des facteurs de l'épuisement professionnel, c'est avec la mondialisation, pour tenter d'être compétitif avec l'Asie, bon, l'Inde. Mm-hmm. On en demande de plus en plus à nos employés aussi, hein? Alors, on voit de plus en plus d'épuisement professionnel maintenant au Québec. Ça, c'est une des raisons. Et moi, je l'ai beaucoup vu dans des petites PME. C'est pas la seule région, mais j'ai pu l'observer plus proche dans la Beauce, où c'est fou, tout ce qu'on demande aux employés depuis qu'on doit compétitionner avec la Chine pour le même produit.
Mm-hmm, vraiment. Effectivement. Ouais. Manon, dans tes feuilles, c'est écrit « modèle de Karasek ». C'est quoi ça?
Le modèle de Karasek, c'est ça. C'est qu'on a vraiment étudié avec des infirmières qui étaient vraiment là en surplus de travail, vraiment, parce que les urgentologues ne pouvaient pas fournir. Ce qu'on a décidé, c'est avec une infirmière, c'est qu'on lui a donné beaucoup plus de latitude, on lui a donné des tâches que le médecin faisait. Et l'autre infirmière, on l'a laissée en position de surcharge, mais avec aucune latitude. Et l'infirmière qui avait aucune latitude, elle est vraiment tombée en position d'épuisement professionnel. Et l'autre, c'est sûr qu'elle avait un degré de travail très intensif, mais au contraire, elle a relevé des grands défis et elle n'était pas en position d'épuisement professionnel.
Puis d'ailleurs, tantôt, quand tu parlais, je me disais, si la personne n'a pas de pouvoir sur les prises de décision, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, le degré d'autonomie, c'est le sentiment d'échec que cette personne-là doit vivre
c'est
éventuellement
effrayant.
Parce que tu n'arrives jamais au bout de ton travail. Tu sais, on dirait que tu n'as jamais un moyen, un moment où tu peux dire « Hey, mission accomplie, là, je viens de finir de quoi qui me pesait, puis c'est fait, on passe à autre chose. » Si tu es tout le temps en surcharge, bien c'est « Oui, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait assez vite, là, je suis encore rushée, puis il faut que je passe à d'autres choses. J'ai même pas le temps de savourer la réussite que je viens de faire parce que j'ai une pile de dossiers qui attend. » Alors ça... parce que moi, je me souviens dans d'autres milieux où ce qu'on a vu, c'est une des choses qui aide au sentiment de bien-être d'un travailleur ou d'une travailleuse dans son milieu, c'est le sentiment d'être d'avoir fait ce qu'on attendait de lui, puis d'avoir un feedback positif, puis que tout va bien. Fait que si tu es toujours dans la surcharge, ben tu as plus de chances de vivre des aspects négatifs, des petits échecs qui, à la longue, font « Bon, est-ce que je suis bon dans mon travail? Est-ce que je suis apprécié? Oui, mais j'ai l'impression d'en faire beaucoup, puis j'ai une personne qui le note. » Fait que ça, j'imagine, il faut faire attention aussi à ça. Là.
Moi, je me souviens un moment que j'étais tout le temps en surcharge pendant 2 ans. Je rentrais chez moi, puis j'avais tout le temps l'impression du devoir, du travail non accompli.
Mm-hmm.
Alors, si tu tournes tout le temps les coins ronds, t'as pas le choix pour arriver. Alors, j'avais jamais l'impression, c'est ça, d'avoir fait bien mon travail. J'avais tout le temps peur d'avoir fait des erreurs. Alors, je me sentais jamais confortable. Puis évidemment, ça apporte plus de stress, là.
Manon, après la pause, parce que là, on va aller en pause bientôt, qu'est-ce qu'on va regarder?
Là, on va regarder plus les facteurs psychosociaux. Okay. On va regarder plus, comme tu le disais tantôt, là, l'évolution des symptômes de l'épuisement professionnel puis des mesures à prendre.
OK. Donc, on va regarder les différentes phases de l'épuisement je l'ai bâclé le mot, hein? De l'épuisement professionnel, l'évolution des symptômes puis les mesures à prendre en prévention. Mais je te remercie beaucoup, Manon, de nous avoir clarifié ça. Écoute, on peut peut-être faire un petit bout sur les facteurs sociaux, puis après, on partira en pause.
OK, parfait. Alors, comme Mary-Vie, quand les tâches puis l'organisation du travail n'est pas claire, ben c'est sûr que ça a un impact. Moi, ce que j'ai vu, on va regarder le tableau. C'est sûr que les auditeurs le voient pas, mais Sandy et moi, on l'a devant nous. Sandy et moi, on a regardé, il y a 4 phases à ce tableau-là, puis...
J'imagine qu'il est accessible sur Internet, hein, si jamais quelqu'un veut aller le vérifier.
Je ne sais pas s'il est sur Internet, parce qu'il est dans le livre que j'ai...
Donne la référence du livre aux gens, peut-être, si jamais les gens sont intéressés, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont sûrement plus visuelles. Alors, ça peut toujours être aidant de savoir où on peut aller prendre un regard sur ce tableau-là. Alors, tu l'as nommé plusieurs fois, mais comment s'appelle le livre?
C'est « À vos marques pré-gérées, la GRH pour gestionnaire ». C'est aux éditions... Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. C'est... ça sera pas long,
je pense qu'avec... À vos marques pré-gérées, c'est déjà bon. Du renouveau pédagogique.
C'est un livre qu'on donne aux étudiants, des étudiants de premier cycle qui veulent en ressources humaines.
OK.
Au HEC à Montréal. Alors, donc, c'est ça. Je me suis servie de ce livre-là beaucoup pour me rafraîchir au niveau de ce sujet-là.
Donc, ce que je propose, c'est parce que là, bon, on l'a dit plusieurs fois un petit peu rapidement. Alors, on va aller en pause musicale. On revient avec la dernière demi-heure de l'émission et on vous redonne, inquiétez-vous pas, la référence pour ce livre-là si c'est un livre qui vous intéresse. Alors, on se laisse en pause et on revient tout de suite après.